Et le journal vous est présenté par Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous. Nous irons à Bruxelles dès le début de ce journal. Bruxelles où s'ouvre un sommet européen extraordinaire. Les pays dits ambitieux, France et Allemagne en tête, vont tenter de faire accepter un plan de relance de 750 milliards d'euros et un budget en forte hausse. Mais les pays dits frugaux freinent des quatre fers.
Pendant ce temps-là, la France tente d'enrayer une hausse inquiétante des cas de Covid-19 en Bretagne. À Paris, c'est la ruée vers les laboratoires pour se faire tester, tandis qu'un rapport sur le confinement et les seniors a mis en lumière la faiblesse des moyens accordés au grand âge en France.
Enfin, on devrait savoir aujourd'hui quelles sont les attributions précises d'un ancien ministère supprimé puis revenu en grâce, le ministère de la Mer. Repousser le spectre d'une récession historique, au moins dans l'espace européen, c'est ce que vont tenter de faire les 27 pays de l'Union qui se réunissent aujourd'hui pour un sommet extraordinaire avec ces deux chiffres sur la table, deux chiffres qui parlent d'eux-mêmes, 750 milliards d'euros pour la relance et plus d'un billion, soit 1000 milliards pour le budget septennal de l'Union européenne. Un sommet qui s'ouvre à Bruxelles à 10h ce matin. Rappelons que le précédent, à distance, avait échoué justement sur le niveau des montants à accorder au plan de relance. Depuis, les consultations entre États sont allées bon train. Elles trouveront ou pas leur résolution au cours de ce sommet qui est le premier sommet physique depuis la pandémie. À Bruxelles, Pierre Benazet.
La présence physique des 27 chefs d'État et de gouvernement va changer la donne. Au sommet virtuel du 19 juin dernier, une des raisons de l'échec avait été l'impossibilité pour les 27 de se rencontrer en bilatéral, profiter des interruptions de séance pour se voir à deux, voire à quelques-uns, pour négocier face à face sur les sujets qui fâchent avec les pays qui bloquent ou pour constituer des alliances. Il y a fort à parier que ce sera intense pour les quatre acteurs majeurs de ce sommet. D'un côté, le président français et la chancelière allemande, qui exercent, elles, en outre, la présidence semestrielle de l'Union. Tous deux mènent le combat pour un plan de relance ambitieux doté de plus d'un demi-milliard d'euros de subventions directes. Dans le camp d'en face, le premier ministre néerlandais, Mark Rutte, c'est la figure de proue des pays frugaux, Suède, Autriche, Danemark, voire Finlande. Ils sont très peu favorables aux subventions, il voudrait plutôt des prêts, mais il voudrait aussi que pour obtenir les fonds européens, un pays doit faire approuver à l'unanimité un plan de relance, un droit de regard donc. Et le troisième acteur sera le médiateur, le président du Conseil européen, Charles Michel. Le jeu diplomatique va donc tourner à plein régime entre les ambitieux et les frugaux, ceux qui veulent des subventions et ceux qui veulent des conditions, mais aussi conserver leur traditionnel rabais budgétaire.
Des négociations qui s'annoncent donc longues et difficiles, d'autant que d'autres sujets sont au programme, notamment le lien entre le versement d'argent et le respect de l'état de droit, pour la première fois inscrit dans un budget de l'UE. La Pologne et la Hongrie s'y opposent. La France, elle, a vu apparaître un nouveau foyer de contamination en Mayenne, où l'augmentation des cas de Covid-19 inquiète les autorités. Dans ce département, le port du masque est obligatoire dans les lieux clos recevant du public de 8 communes. Et d'ailleurs, le port du masque sera obligatoire dans tout le territoire français dès lundi, dans les lieux publics clos toujours, et non plus le 1er août, comme cela avait été envisagé par Emmanuel Macron dans un premier temps. La crainte d'une seconde vague est toujours présente. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de Français choisissent de se faire tester. À Paris, la semaine dernière, plus de 16 000 personnes ont effectué un test, futurs vacanciers, malades ou encore salariés inquiets qui ne sont pas forcément prioritaires et qui crée une forte affluence devant les laboratoires. Camille Kaufmann s'est rendue hier devant l'un d'eux.
Il est à peine midi et déjà une dizaine de personnes patientent devant le laboratoire de la rue Saint-Pétersbourg à Paris. C'est le cas de Simone, 61 ans. Elle tient à se faire tester avant de rendre visite à ses parents.
Je suis passée hier, il y avait une queue de 50 personnes. Donc aujourd'hui, je me suis pris en avance et j'ai emmené un tabouret pour m'asseoir, pour faire la queue calmement et attendre 14 heures.
Autre facteur d'engorgement des laboratoires, l'obligation de présenter un test PCR négatif avant de partir en vacances dans certains pays ou de monter dans l'avion. Pour Sana, c'est la condition sine qua non pour reprendre le travail.
J'ai eu des symptômes dimanche soir jusqu'à lundi. Après, c'est très vite passé, mais vu qu'il y a toujours le doute de est-ce que c'est ça ou pas, et vu que je travaille dans la petite enfance, mieux vaut être sûr de ne pas l'avoir, et parce que sinon, c'est la section qui ferme dans la crèche. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place, il y a énormément de gens qui se battent pour les tests, et c'est très compliqué.
Les files d'attente ne devraient pas désemplir. Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture de l'accès aux tests de dépistage sans ordonnance. Une décision que regrette François Blanchecotte, président du syndicat des biologistes.
J'ai très peur que, évidemment, on passe à côté ou qu'on fasse attendre des gens qui devraient le faire dans les 24 heures comme les prescrits. Beaucoup de gens qui viennent, il n'y a pas de notion d'urgence absolue. Ils n'ont aucun symptôme, ils n'ont rien, ils n'ont pas été en contact. Peut-être qu'on pourrait y aller vers un auto-prélèvement des Français. Il y a peut-être des solutions auxquelles il va falloir réfléchir pour essayer de traiter beaucoup plus de patients.
En attendant, les pharmaciens peuvent effectuer des tests sérologiques sans ordonnance et les techniciens de laboratoire sont désormais autorisés à réaliser les tests PCR.
Camille Kaufmann, et pendant que la France tente d'enrayer une nouvelle vague, les États-Unis ont enregistré hier leur plus haut taux de contamination avec au moins 77 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures.
France Culture 7h05, Anne-Laure Chouin, tout faire pour ne pas reconfiner car le confinement a eu des effets parfois dévastateurs sur certaines catégories de population, en particulier les personnes âgées.
Oui, un rapport sur la situation des seniors en période de confinement a été transmis hier au ministre de la Santé, Olivier Véran, et il pointe sans surprise les faiblesses des politiques publiques en matière d'accompagnement et un manque de moyens sur le terrain, notamment dans les EHPAD. Un rapport dirigé par le socialiste Jérôme Guedj, les précisions de Lina Tagui.
36 propositions et un but, créer une politique publique pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Pour Jérôme Guedj, l'auteur de ce rapport, la crise sanitaire a exacerbé ce problème.
À l'occasion du confinement et de la crise sanitaire qu'on vient de vivre, ce sujet de l'isolement qui n'était pas suffisamment à mon goût et au goût de beaucoup d'acteurs associatifs et d'acteurs locaux, une priorité des politiques publiques a été clairement identifiée forcément comme un enjeu parce que le confinement accentuait les situations d'isolement qui pouvaient préexister ou en provoquait des nouvelles parce que forcément quand on est une personne fragile chez elle et qu'on peut plus sortir, on est confronté aux conséquences de l'isolement et c'était particulièrement vrai aussi s'agissant des personnes âgées dans les EHPAD.
Le rapport doit servir d'appui pour de futures réformes comme celle sur la 5e branche de la sécurité sociale ou la future loi grand âge et autonomie. Pour Jérôme Guedj, l'isolement des seniors doit faire partie des préoccupations des communes et doit devenir un sujet de mobilisation nationale.
Il faut que ça devienne quelque chose d'organisé toute l'année, pas uniquement dans les périodes de canicule comme c'est souvent le cas, mais aussi toute l'année, parce que cet isolement, il ne faut jamais l'oublier, il peut tuer. Il aggrave les situations de perte d'autonomie. Et donc, on ne peut pas se dire qu'on construit une politique grand âge et autonomie sans s'intéresser à l'isolement aujourd'hui.
Selon l'association Petits Frères des Pauvres, qui a également fourni un rapport sur ce sujet, en France, près d'1 million de personnes sont en situation d'isolement et de solitude, et 300 000 seraient dans une situation de mort sociale.
Les partenaires sociaux ont rendez-vous aujourd'hui à Matignon pour le premier grand rendez-vous social du nouveau gouvernement. Jean Castex et le président de la République ont beaucoup employé ce terme de dialogue social dans leurs récentes interventions, à un dialogue social censé incarner le changement de méthode. De fait, le programme de ces prochains mois est chargé avec en priorité l'emploi des jeunes, le plan de relance et ses aspects environnementaux ou encore l'avenir du système des retraites. Enfin, on devrait savoir aujourd'hui à quoi ressemblera le nouveau ministère de la mer. À un ministère de plein exercice attribué à Annick Girardin, précédemment en charge de l'outre-mer. Le portefeuille n'est pas nouveau, il a été créé en 1981, puis supprimé et rattaché à l'agriculture en 1991, avec 11 millions de kilomètres carrés de zones d'exploitation exclusive, dont 97% autour des territoires et départements d'outre-mer. La France est la seconde puissance mondiale maritime. Alors, quel sera le périmètre de ce nouveau ministère? Premier élément de réponse avec Véronique Reberotte.
Il aura fallu qu'Annick Girardin bataille sec ces derniers jours pour asseoir son périmètre et donner à son ministère des moyens d'action. Certaines discussions n'ont pas été simples, croit-on savoir, avec certains de ses collègues, les ministres de l'Agriculture et de la Transition écologique, pour ne pas les citer. Finalement, si certains secteurs seront pilotés conjointement avec d'autres ministères, comme celui des Transports maritimes, partagé avec le ministère de l'Écologie, Annick Girardin a obtenu, avec le soutien appuyé de Matignon, la tutelle sur toutes les activités de pêche, à elle les attributions relatives à la navigation, à la sécurité, à la formation, aux gens de mer, à la plaisance et aux activités nautiques. Le secteur compte 400 000 emplois et représente 14% du PIB de la France. Une économie maritime à relancer après la crise sanitaire, tout en relevant le défi environnemental, 10% de la diversité mondiale des espèces marines se trouve en France. Annick Girardin pilotera aussi la défense des intérêts français à l'international. C'est donc elle qui négociera à Bruxelles les quotas de pêche et les zones ouvertes aux navires français. le sujet de l'accès des pêcheurs français aux eaux britanniques est sensible depuis le Brexit.
Véronique Rebérotte, un dernier mot de météo avec pour ce vendredi un ciel dominé par les nuages, à l'exception du sud-est. Ce matin, il fait gris presque partout. Le temps sera plus lumineux cet après-midi, sauf sur le sud-ouest. Large soleil, en revanche, sur la Méditerranée. Les températures comptées au plus chaud de 21 à 28 degrés cet après-midi jusqu'à 32 près de la Grande Bleue.